Hello everyone, welcome back to this resumed session of our program, of our Medel birthday. This session is on the history, on the founding of Medel. It's a bit a reminder of the road we did in these 40 years since the foundation in 1985. I'm very glad that this morning the President of the European Court recognized us to this role of making democracy and rule of law live, making alive the values. We always thought that our commitment was to networking, to protecting, to comparing, and to sounding alarm when it was needed. And now it is particularly needed. We have a lot of alarms to sound. We gathered in this session, and I'm very grateful to all of them to be here, a number of founders in Medel in 1985. It was founded here in Strasbourg, and the actors, protagonists, past presidents, past secretary general will try to give us quickly, because we are a lot, their souvenirs, their reminds of that period and how the history of Medel evolved in the beginning to arrive now. I don't take any words. We have a short video from Salvatore Senese, which is one of our founders to which we are particularly committed, and then we will start with our session.
Il me semble que le premier contact des magistrats italiens, et pas de tous les magistrats, mais simplement des magistrats de magistrature démocratique, avec des magistrats français, a été en 1970, quand à l'occasion d'un congrès, je ne me rappelle plus si... Oui, c'était un congrès qui s'était déroulé en Italie. Il est venu quelqu'un, un magistrat français, a pris contact avec nous, etc. Les problèmes auxquels nous faisons face, finalement, seraient mieux traités, mieux compris et peut-être mieux résolus si on mettait ensemble nos forces, nos expériences. Et voilà alors qu'on commence à avoir des rapports de plus en plus fréquents entre magistrats italiens et magistrats français, notamment entre magistrature démocratique et syndicat de la magistrature. Et après, on découvre qu'il y a des problèmes similaires en Belgique, en Hollande, en Allemagne.
Ok. It's finished, ok. This was Salvatore, was one of the founders of Medel. I will give now the floor to start to Edmondo Butti Liberati, which followed Medel at the beginning. He's a former president of our association, former chief prosecutor in Milan, and now he's an historian. He wrote very good books on the history of magistracy in Italy and writes in newspapers, and I will ask him to start from his historian point of view the founding of Medel. Thanks, Edmondo, for being here.
Thank you very much. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous pour cet anniversaire. J'ai été engagé à Medel tout au long de la phase initiale, notamment auprès des présidents François Guichard, Heinz Stetzel, Orlando Afonso, pendant plusieurs périodes en tant que membre aussi du bureau. Je n'étais pas à Strasbourg ici en 85, mais j'avais suivi la phase préparatoire. Une étape fondamentale a été le colloque de Lille. Simon Gaboriau a déjà parlé de ça, sur le titre « Magistrature et démocratie ». Les actes ont été publiés dans le volume « Être juge demain ». Le texte pose des problèmes d'une actualité extraordinaire. C'était l'époque de grands progrès démocratiques. Le rétablissement de la démocratie en Espagne, au Portugal et en Grèce, de grandes réformes dans toute l'Europe, y compris le rattrapage des retards historiques, la législation sur le divorce en Italie, l'abolition de la peine de mort en France. Le système judiciaire dans toute l'Europe a été confronté à des réformes et les positions conservatrices dans les magistratures ont essayé de résister aux nouveautés. Dans son intervention à Lille, Salvatore Senese, vous avez vu les visios, a posé la question, je cite, « L'indépendance est-elle une valeur démocratique ou bien une limite à la démocratie ?» En répondant, je cite, « L'indépendance est une valeur pour les réformes au sens démocratique. » D'où l'attention portée aux mécanismes visant à garantir cette indépendance telle que le Conseil supérieur de la magistrature. Simon Gaboriau conclut dans ce texte l'avant-propos par une déclaration claire. Le statut de la magistrature est un des éléments de la démocratie. L'histoire de l'Italie montre le rôle fondamental joué par les associations des magistrats pour que l'indépendance ne fonctionne pas comme un privilège corporatif, mais comme un élément de démocratie, pour reprendre les mots de Simon Gaboriau. Je rappelle deux déclarations fondamentales de Medel. Élément d'un statut européen de la magistrature, 1993, et déclaration des principes sur le ministère public 3 ans après. De nombreuses étapes ont été franchies depuis lors en Europe, en particulier dans les documents élaborés dans les différents organes du Conseil de l'Europe, mais à l'époque il y avait très peu de références. La gestation du premier texte, élément d'un statut européen de la magistrature, a été très, très, très difficile. Par une communication en décembre 1991, le président François Guichard a annoncé qu'un projet élaboré par Christophe Strecker avait été transmis aux associations nationales et a sollicité des observations en vue de la réunion du prochain conseil d'administration prévue à Paris l'année suivante. Mais même à Paris, il n'y a pas eu d'accord sur un texte commun et il y a eu presque la tentation d'abandonner. La réunion de Lisbonne a été décisive à l'automne 1992. Avec 4 ou 5 de ceux qui avaient participé aux discussions précédentes, on a décidé une sorte de conclave, ne pas sortir sans un texte partagé. Nous n'étions pas dans la chapelle Sixtine, nous n'avons pas d'aide d'anneau, mais l'atmosphère des conclaves a été fructueuse et on a dressé un projet final qui a été approuvé au conseil d'administration qui s'est tenu à Palerme en janvier 1993. Je cite de l'avant-propos. Nous avons voulu situer notre réflexion dans une perspective dynamique de recherche et d'approfondissement. Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à partager et à défendre avec nous les principes ainsi définis, en espérant qu'ils contribuent à la création d'un espace judiciaire européen fondé sur la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Fin de la citation. Le travail de Medel a été apprécié dans les institutions du Conseil de l'Europe et après de l'Union européenne dans le cadre d'initiatives pour la construction de la démocratie dans les pays de l'Europe centrale et orientale. Les travaux préparatoires des documents relatifs au ministère public ont débuté par un questionnaire envoyé en 1994 à toutes les associations nationales. Les réponses ont été distribuées à toutes les associations nationales. Chargé d'élaborer un rapport sur la base des réponses reçues, j'ai présenté au Conseil d'administration d'Amsterdam, La déclaration des principes sur le ministère public a été enfin approuvée par le Conseil d'administration à Naples et le 2 mars 1996. And now I switch to English. The fundamental principle also on the magistrates of the public prosecutor had been laid down in Palermo declaration. The text approved in Naples is not completely measured by the complexity of the problems posed by the role of the public prosecutor and by the very diversified system adopted in European countries. The reason is perhaps be found in the urgency of proposing a document in situation that had arisen in the mid-90s. In response to investigation that had revealed corruption in politics and economics in many European countries over the previous 5 years, There were several attempts by government to influence and control prosecutor investigation. And also, the need to put some clear principle for the role of the new public prosecutors in Central and Eastern Europe's countries. However, despite this limitation, that work was not in vain. It was the first European text on public prosecutor. In following years, many magistrates of Medel were involved in the initiative of the Council of Europe on this issue. A fundamental step is the recommendation 19-2000 by the Committee of Ministers of the Council of Europe, the role of the public prosecutor in the criminal system. Today, the status of magistrates, judges and prosecutors is more topical than ever in face of the attacks on the judiciary that can be observed in several European countries. And even more worrying is what is happening in the United States of America. The independence of the judiciary is a principle that has never been definitively acquired. The formal proclamation of the principle is nothing if institutions that guarantee its effectiveness are not in place. These institutions of guarantee, whether they are higher council of the judiciary, council of justice, or other structures, are now under attack in many European countries. And so, if it's true that we have seen a global phenomenon of expansion of the role of the judiciary, the teaching of Alexander Hamilton 2 centuries ago in Federalist number 78 remain always relevant. I quote, "The judiciary is beyond the comparison the weakest of the three departments of power, and it can never attack with success either of the other two, and that all possible care is requisite to enable it to defend itself against their attack." End of quote, and end of my speech. Thank you.
Well, first of all, good morning to all. We stick to the founding fathers of Medel, let's call them like that. And I'll give the floor now to Jean-Paul Jean. Jean-Paul Jean is an honorary chamber president of the Cour de Cassation, if I'm not wrong. He's the secretary general of the Association des... De Cour francophone, je crois que le nom de l'association est un peu plus long que ça, mais l'association des hauts cours francophones. And he was one of the founders of Medel, so without further ado, I will give you the floor.
Merci beaucoup. Effectivement, Medel a beaucoup de pères et de mères. Et cet enfant, il est né officiellement à l'état civil ici, à Strasbourg, en 1985. Mais la conception a été beaucoup plus que 9 mois. Ça a été 2 ans et demi, la conception, avec tous ses pères et toutes ses mères qui l'ont enfanté. Et je vais juste centrer mon intervention très, très rapide sur l'apport de Medel au débat intellectuel sur la justice. Je pense que c'est ça aussi, sur les idées, sur la justice, où nous en étions en 1982-83 dans la justice en Europe. Et ce débat, et je vais juste donner quelques éclairages, some spotlights, sur des événements qui ont été connus. Medel est né à l'université de Lille avec Jean-Pierre Royer, le professeur de Lille, avec qui j'ai écrit l'histoire de la justice en France, depuis, où il y a l'histoire de Medel à l'intérieur. Et dedans, il avait fait un questionnaire de tous les pays d'Europe. Et c'est ce questionnaire qui a servi de base de comparaison. Il n'y avait des études de droit comparées. Il n'y avait pas d'études de justice comparée en Europe. Il n'y avait que Blankenburg, un universitaire néerlandais, qui avait travaillé sur la justice comparée. Il y avait le droit comparé par les professeurs de droit, mais pas de justice comparée. Et là, ça a été une prise de conscience extrêmement importante. Et je me souviens du débat culturel. Je vois Christopher Strecker et je me souviens de son intervention, dont je me souviens encore du titre, en anglais, je ne sais pas, « Des ciseaux dans la tête ». Il montrait le conditionnement. Relisez cet article, Les ciseaux dans la tête de Christopher Strecker, qui vous montre comment, à la fin d'une audience, quand vous avez condamné 9 personnes sur 9, le 10e qui arrive à la fin, Si vous voulez être un juge, il a plus de chances d'être acquitté que les autres. Voilà. Et ça, culturellement, il avait entièrement raison. Deuxième éclairage, Bordeaux, 83-84, je voudrais retrouver, nous étions un tout petit groupe. Tout petit groupe. Il y avait Daniel Lecrubier, mon prédécesseur comme secrétaire général, Simone, François, et quelques amis belges, espagnols, italiens. Et nous avons écrit, c'est là où a été conçu vraiment Medel, et je me souviens d'écrire la charte constitutive de Medel sur, avec un feutre, et on travaillait ensemble, un petit groupe, on était une dizaine de personnes. Je voudrais retrouver ce document. Je n'ai pas vu sur le site internet de Medel la charte constitutive de Medel. Qu'est-ce qu'on a écrit en 1983-84? Je ne sais pas. Donc, il faut que je retrouve mes archives. Voilà. Troisième éclairage, les Espagnols. Qui sont les Espagnols ici? Voilà. Avec Blandine Froment, en 1983. Ne pas oublier que le Portugal et l'Espagne étaient juste sortis de dictature. Et qu'à l'époque, les progressistes étaient les procureurs et les conservateurs étaient les juges. Les juges étaient traditionnels et les forces progressistes au Portugal et en Espagne étaient les procureurs. Et nous sommes allés avec Blandine Froment au congrès fondateur pour créer Jueces para la Democracia à Sitges. Et avec, c'est là où j'ai rencontré Juan Alberto Belloc, Pompidou, que j'ai revu il y a quelques années à la Cour suprême d'Espagne. L'un était procureur général, l'autre était ancien ministre de la Justice et de l'Intérieur. Voilà. Mais ce débat me semble important. Et puis, ces idées, certains savent ici que dans cette maison, j'ai été le président de la CEPEJ de 2003, depuis la création jusqu'à 2018. Et Medel a été admis comme observateur en 2008. Donc quelles sont les idées de Medel qui sont restées dans la CEPEJ? Je vais terminer par ce point-là, puisqu'on est sur les idées. Eh bien, on a fait tout de suite un immense questionnaire sur les 46 pays du Conseil de l'Europe qui, pour la première fois, a permis une comparaison avec des exigences extrêmement fortes sur l'indépendance, sur les garanties. Est-ce que le parquet a le droit de classer sans suite une affaire? Est-ce qu'il peut recevoir des instructions? Quelles sont les garanties sur la formation des juges? En 2008, le selling glass, l'égalité homme-femme. Combien de femmes et d'hommes? À quel niveau de la hiérarchie? Combien sont présidents, etc. Donc, ces idées de Medel, je pense qu'on les retrouve aussi à l'intérieur de la... du questionnaire de la CEPEJ, et c'est ce lien sur l'histoire, le long lien de l'histoire, c'est ce débat culturel, intellectuel, et aujourd'hui, si on réfléchit, attention à ne pas apparaître que comme des juges. La magistrature, ce sont des procureurs et des juges. Quelles sont les garanties des procureurs aujourd'hui? Parce que les progressistes sont peut-être plus les juges, et les procureurs sont peut-être plus contraints par les réalités. Quand nous avons aider à fonder Jueces para la Democracia, nous y sommes allés avec des syndicalistes policiers et nous avons fait une rencontre entre les magistrats, les policiers progressistes en France et les policiers progressistes en Espagne. Aujourd'hui, quel est le débat de Medel, de nos syndicats, avec les syndicats progressistes de la police? Est-ce qu'il existe encore des syndicats progressistes dans la police? Voilà ma question. Mais nous avons beaucoup à travailler. Et intellectuellement, je pense que cette transmission de génération me semble extrêmement importante. Merci à tous.
Merci Jean-Paul pour avoir évoqué la culture de Medel et pendant les années et l'influence qu'elle a eue sur le travail du Conseil d'Europe aussi. You mentioned Spain. Spain in founding times of Medel was a new democracy with Portugal. It was about to enter in the EU because those were the years of Spain and Portugal joining the EU. And I'll ask Miguel Carmona, who is with us, who is the former president of Medel, to remind that atmosphere at that times. Thanks, Miguel.
Okay, thank you very much, Quartiero. I was not certainly in the one of the founders of Medel, but I assisted closely to the foundation because I was a member of the secretariat or the board of executive board of the Juez de Pra Democracia, the Spanish Judicial Association. And I was closely following the works of José María Medel and Juan Alberto Belloc, who assisted the meetings in Strasbourg. I was in the 5 minutes, as it was conceded to me, stressed or pointed out the signs of identity of Medel. What are signs of identity of Medel? First of all, we are the only organization gathering in Europe, association of judges and of prosecutors. And this probably gives us some sort of wider perspective, wider view of the whole judiciary around Europe, around our countries, because we are not just the voice of judges, but we are also voice of judges and prosecutors and probably other sectors of judiciary. And the second sign of identity, perhaps, is our special commitment with the society in general. And we are trying, and sometimes we are certainly a voice of the judiciary in Europe, some the media and other members of civil society are addressing to us, asking for the opinion about what are the developments of the judiciary in our countries. But particularly, one of the biggest, or perhaps the biggest definition of Medel is our close relationship with the human and fundamental rights in Europe. Not just, namely, judicial independence, as I referred many times, but not just judicial independence, but also the human rights of all citizens, namely the most vulnerable of citizens, the weakest, then immigrants, people in prison, etc., etc. And this science of identity probably has marked or have marked our history. And my second requirement can be addressed to stress the main activities of Medel. Certainly, we are not the only association the only voice of the judiciary in Europe, but probably, as said by Edmondo, documents about the statute for magistrature, the statute of judges, and about the statute of prosecutors in Europe has preceded, probably, the documents of the Council of Europe of about the statute of judges in Europe and about of the main points of prosecutors in our countries. And the third thing I have to refer to in this 5 minutes is our special, or not special, but a particular engagement with the human rights. Probably in the foundation of a common European culture of judiciary, we have certainly contributed by promoting or in way defining or making up this document, but not just this document, particularly or namely our frequent national reports about the problems suffering by magistracies in different countries such as Turkey, Bulgaria, Romania, but not just France, Italy, Spain, Portugal, etc., has marked some activity about this country, or have marked or have pointed the attention, more close attention, about the problems of the judiciary in this country, about the attacks suffering by the magistracies in this country. Probably this are in a brief references the main signs of identity of Medel and the main activities of Medel. And it's, let's conclude, congratulating the whole association by this 40th anniversary. Medel is born with 10 associations of 6 European countries. Now we are, in this to me, I heard Maria Rosario Guillermi say that we are 25 organization of different countries. And I assisted, let me say, the first of or the complete enlargement of Medel with the inclusion of association of judges and prosecutors from Central and Oriental Europe, and thus perhaps are marked some change of activity and change of identity of Medel. First is a little change of common language. Our first common language was indubitably French, but now perhaps it's better English than French, because more our Central and European, Eastern European colleagues don't speak French, but speak English. And the second, perhaps more important, is the change of the conception of the whole of Medel, because in the first moment, Medel was just gathering some little association in six European countries, but now we have a wider, perhaps, a view of the common problems of the democracy and the common problems of the judiciary in Europe. It's all that I have to say in this first 5 minutes. Thank you very much for your attention and for not sleeping during my attention.
Eh bien, on continue avec les jeunes démocraties. Et aussi, la Grèce était sortie d'une dictature aux années 80. Et je passe la parole à Georgios Stavropoulos, qui a été ministre, vice-président du Conseil d'État et un des fondateurs aussi. Il a signé les statuts qui sont dans notre site web. Et alors, je passe la parole à Georgios.
Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi. Et en même temps, avec une grande émotion, de participer à la célébration de 40 ans depuis la création de notre organisation judiciaire européenne. Je me souviens toujours de notre première Assemblée générale à Paris et de mon mandat au sein du premier bureau pour la première période sous la présidence d'un juge éminent, philosophe et militant aussi, qui malheureusement n'est plus parmi nous, le Belge Christian Wetten. Il n'est pas le seul absent parmi nos anciens collègues. Mais c'était Christian, cette personnalité importante, qui a donné un prestige particulier à notre organisation européenne nouvellement créée. À l'époque, j'avais participé à titre personnel, mais puis plus tard, nous avons fondé en Grèce l'Association des magistrats grecs pour la démocratie et la liberté, qui a été devenue plus tard membre du MEDEL. Notre association judiciaire grecque se caractérise par la participation à ses centres des juges provenant de toutes les branches de la justice grecque, à savoir la justice civile, pénale et administrative, ainsi que d'avocats du ministère public. Ils sont encore membres des magistrats à la retraite. L'association hellénique agit en parallèle avec les syndicats des magistrats et collabore avec eux. Plus tard, nous avons célébré à Athènes les 30 ans de l'existence de l'organisation grecque, avec la participation de la part de Medel d'un grand nombre de magistrats des pays européens. À Athènes, également, nous avions célébré auparavant, en 2016, les 30 ans de Medel lui-même. Il faut souligner que notre association hellénique avait été initialement accueillie avec beaucoup de réserves par l'establishment judiciaire de notre pays. Les juges étaient traditionnellement tenus à une attitude qui presque interdisait l'expression libre de leur opinion et des actions qui en découlent, à l'exception notable des membres du Conseil d'État de Grèce qui constitue la Cour administrative suprême. Notre association nationale, grâce en plus à l'influence des modèles, a osé quelque chose de nouveau, de différent, de plus libre, dans le domaine judiciaire traditionnellement conservateur. Au fil des années, notre association a organisé de nombreuses manifestations politiques à Athènes et dans d'autres pays, d'autres villes de Grèce, sur des questions liées à l'indépendance et à la démocratisation de la justice et à la protection des droits de l'homme individuels et sociaux. Les générations des juges se succèdent, les nouveaux collègues prennent leur arrêt avec mérite. Cependant, la justice est toujours attaquée, comme à nos jours, et son indépendance est menacée partout en Europe. Les siècles se sont écoulés depuis qu'Aristote a mentionné pour la première fois la distinction des trois pouvoirs à l'organisation de la cité. Montesquieu l'a suivi plusieurs siècles plus tard. Les constitutions et les textes internationaux l'ont ensuite formulé par écrit. Cependant, l'autorité gouvernementale veut partout être incontrôlable, fonctionner sans règles, ne pas rencontrer de résistance, en collaboration toujours avec le pouvoir économique. Les équilibres des trois pouvoirs de l'État dérangent le gouvernement. Les check and balances ne sont pas facilement acceptés. Mais c'est surtout l'autorité judiciaire qui dérange l'exécutif, car elle ne cède pas facilement à ses pressions. Les dépendances de la justice exigent qu'il ne soit pas prévisible à son action et ses décisions. Le pouvoir politique fait pourtant tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut, pour l'influencer et empêcher les jugements judiciaires libres. Les juges résistent cependant partout. Nous nous appuyons dans toute l'Europe sur les bases solides. Ce sont nos traditions démocratiques et nos textes constitutionnels nationaux, ainsi que les textes de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Le respect cependant de ces textes n'est pas facile, en effet. Il nécessite des luttes collectives, mais aussi des efforts individuels. L'indépendance de la justice n'est pas un privilège des juges. Elle sert le peuple. Elle vise à annuler l'absolutisme qui se cache sous n'importe quel déguisement prétendument populaire. Les attaques contre l'autorité judiciaire sont malheureusement nombreuses dans tout le continent européen. Et les organisations judiciaires nationales, MEDEL, et chaque juge individuel doit rester vigilant afin qu'on puisse repousser les tendances autoritaires des autorités gouvernementales. La démocratie n'a pas malheureusement cessé d'être menacée en Europe par de nombreuses et dangereuses aussi conceptions prétendues anticonformistes, mais en fait réactionnaires, par les idéologies soi-disant neutres et les pratiques bureaucratiques de Bruxelles, par l'absence générale de politiciens de valeur, par une hypocrisie politique très répandue, par des compromis perpétuels dans tous les niveaux, qui sapent la pureté idéologique de notre tradition européenne démocratique commune. En revanche, je ne peux que de me réjouir de la croissance considérable de MEDEL au fil du temps, qui a intégré de nombreuses organisations judiciaires de l'Europe de l'Est. Je n'ai qu'une seule inquiétude. J'espère que les nombreux problèmes auxquels les magistrats sont confrontés, principalement issus des pays de l'Europe de l'Est, n'affectent pas les efforts que MEDEL a consacrés dès le début, notamment sur l'approfondissement de la démocratie en ce qui concerne l'organisation de la justice et la libre expression et action des associations judiciaires, ainsi que de chaque juge et procureur individuel dans notre continent. En terminant, je dois surtout signaler que nous devons préserver surtout la paix dans notre Europe éprouvée contre les propagandes des partis maintenant encore belligérantes. Un mouvement pacifiste doit se répandre partout dans notre continent. Nous ne voulons aucune guerre entre les Européens. La guerre existante en Ukraine doit finir honnêtement et le plus vite possible, car le droit à la vie est naturellement le premier des droits fondamentaux qui doit être efficacement respecté en Europe et partout dans le monde. Les guerres annulent le droit à la vie en définitive, non seulement pour les troupes, mais aussi pour la population civile. Nos pensées sont ces jours-ci surtout aux personnes touchées le plus par la guerre, qui sont en plus les plus innocents, les enfants ukrainiennes, russes et surtout les enfants palestiniens. Il faut agir et surtout il faut agir vite pour la paix. Merci beaucoup.
Thank you, merci, Yorgos, merci. Thank you for reminding us that the rule of law, the law, is solving conflicts without peacefully, without arms, and that's why we act. At the founding in Strasbourg, there was Domenico Gallo 40 years ago. I'm sorry to remind this, but it was an important moment for us. You were representing our association with Salvatore Senese that we saw, and with Pierluigi Zanchette, dear friend that left us too soon. So what happened in that meeting in 1985, Domenico?
Merci. D'abord, je voudrais rendre hommage aux collègues fondateurs de MEDEL qui ne sont plus parmi nous. Pierluigi Zanchetta, Salvatore Senese, Christian Wetten et Heinz Stotzel. Ces collègues nous ont laissé un précieux héritage. Par leur vie, ils ont témoigné de leur foi dans les droits inviolables de la personne, fondament de la démocratie et de l'état des droits. Cette histoire a commencé avec la conférence de Lille en 1982. Être juge de Maine, où des magistrats italiens, français, belges, portugais et allemands ont discuté du statut de la magistrature dans leur pays et de la perspective d'un avenir commun. Lors de la conférence organisée à Bordeaux le 15 et le 16 octobre 1993 par les syndicats de la magistrature, sous la présidence de Simon Gabriel, une charte de garantie minimale d'un statut démocratique de la magistrature a été définie pour être proposée au Conseil de l'Europe. Le moment était venu. Un peu de temps, il a été décidé de créer une association qui rassemblerait les associations nationales des magistrats et des procureurs, unis par une vision commune de la démocratie et du rôle de la magistrature dans la protection des droits humains fondamentaux et inviolables. Le 15 et le 16 juin 1985, nous avons approuvé à Strasbourg le statut qui marque la naissance de MEDEL. Dans les années 1980, le climat était profondément différent de celui d'aujourd'hui. Les régimes fascistes du Portugal et d'Espagne s'étaient effondrés. La démocratie traversait une phase d'expansion et de consolidation dans toute l'Europe occidentale. En Italie, après un long gel, les réformes des années 1970 concrétisaient les promesses de la Constitution italienne et le pouvoir judiciaire avait surmonté le défi du terrorisme d'extrême droite et d'extrême gauche. La guerre froide s'estompait rapidement, entraînant avec elle les restrictions au pluralisme que l'esprit des guerres avait engendré dans les systèmes internes. À l'époque, nous sortions de luttes sociales et politiques victorieuses et avions une grande confiance en l'avenir, une confiance qui atteignait son apogée le 9 novembre 1989, lorsque le mur de Berlin fut abattu et le principe de démocratie et d'état de droit se répandirent dans un vaste espace dont ils avaient été trop longtemps exclus. Malheureusement, cet avenir dont nous avons rêvé s'est envolé trop vite et les rêves ne restent que des rêves. En ce temps cruel, le pire cauchemar de la première moitié du XXe siècle sont de retour. Le mépris du droit, la logique de la force, le retour du nationalisme, l'exaspération des conflits ethniques, le retour du maccartisme sous la forme de l'invention du bouclier européen pour la démocratie. La frénésie guerrière qui sécure les chancelleries et les sommets de l'Union européenne et nous précipite dans une course aux armements de mente. Ces poissons dégradent profondément la vie démocratique dans nos pays. Ce n'est pas un hasard si le statut d'indépendance du pouvoir judiciaire est contesté selon des formules différentes da de nombreux pays européens. Ce n'est pas un hasard si neuf pays européens, menés par l'Italie et la Danemark, ont publié une lettre ouverte le 22 mai dans laquelle il conteste la jurisprudence de la Cour européenne des droits humains, car elle renforce les droits des migrants, liant les mains des dirigeants aux contraignantes du droit. Nous vivons une phase de forte régression de la démocratie et de l'état des droits. Aujourd'hui, l'esprit de confiance qui a présidé à la fondation de Medel a disparu. Cependant, nous pouvons affirmer avec fierté que l'existence de Medel constitue un obstacle, le principal point de résistance au projet de restriction de la démocratie et de démolition de l'état des droits en Europe. Tout ce projet doit surmonter l'obstacle d'une justice fière de son indépendance, non soumise au pouvoir politique et au particularisme, fermement consciente de son rôle dans la défense des droits inviolables de l'homme. En ces temps sombres, la mission des associations de magistrats aderente à Medel et de veiller sur les conquêtes de la civilisation juridique, car la nuit doit passer. La question que nous pose le prophète Isaïe demeure. Veiller, combien de tombes reste-t-il à la nuit? Merci.
Eh bien, on venait de parler de la chute du mur de Berlin et c'est le moment idéal pour passer la parole à François Guichard, qui était le président de Medel, si je ne me trompe pas, de 1989 à 1993, je crois. Donc, à l'époque de la chute du mur, et je donne la parole à François Guichard.
Merci. Chers amis, c'est évidemment pour moi un grand moment d'émotion de vous recevoir tous dans ce qui a été ma ville, Strasbourg, que j'ai quitté il y a 25 ans, mais qui a été ma ville pendant 30 ans. Et j'ai été le deuxième président de Medel, effectivement, à cette époque. Et il s'est trouvé que mon anniversaire a coïncidé avec la création de Medel le 13-14 juin 1985. J'avais 30 ans à l'époque. Et ça a été une particularité de Medel de m'élire peu de temps après comme président, alors que j'étais le plus jeune, dans le grade le moins élevé. Et ça aussi, c'était une des particularités de l'organisation de la magistrature, de faire en sorte que la hiérarchie judiciaire soit moins présente. Et cette confiance que des magistrats, mes prédécesseurs, mes frères, mes grands frères, illustres m'ont donnée, Salvatore Senese, l'Italien, Christian Vétinck, le Belge, sans oublier Louis Joinet, le Français, ont été un des moments majeurs, je crois, de mes engagements. Et pour moi, j'ai un rapport, je dirais, charnel à Medel. De tous mes engagements politiques, associatifs, syndicaux, celui, je crois, dont je suis le plus fier, c'est Medel. Et je mesure aujourd'hui la chance que l'on a d'être ici à nouveau réunis au Conseil de l'Europe, parce qu'à l'époque, la Convention européenne des droits de l'homme, c'était notre arme, c'était notre outil de combat pour la défense aussi de la magistrature, d'un statut indépendant de la magistrature, face à toutes ces vieilles conceptions napoléoniennes et révolutionnaires françaises qui voulaient que le juge ne soit que la bouche de la loi. On sait maintenant que c'est plus complexe et qu'au-delà de la loi, il y a les principes fondamentaux, il y a le droit international. Alors, je parlerai effectivement de deux temps forts de ma présidence. La chute du mur de Berlin, et en particulier ce congrès, ce colloque, ce conseil d'administration, je ne sais plus, que nous avions organisé au Bundestag, qui n'était pas encore le Bundestag d'ailleurs, mais qui n'était plus le Reichstag, fort heureusement, au Bundestag à Berlin. Et se retrouver quelques mois après la chute du mur, dans cette ville qui symbolisait la division de l'Europe martyrisée par la Seconde Guerre mondiale, a été, je crois, un moment extrêmement fort. De ce moment de réunification des deux parties, des deux lobes du cœur de l'Allemagne, est née une réflexion sur l'ouverture de Medel à nos collègues d'Europe orientale. Et la question n'était pas simple. Elle était simple en Allemagne, parce que, évidemment, tous les juges de l'ex-RDA ont été assez facilement remplacés par des magistrats venus de l'Ouest pour poursuivre leur carrière à l'Est. Nous avons, avec nos amis allemands, évidemment, émis des critiques contre cette épuration qui ne disait pas son nom contre des magistrats est-allemands. Dans les autres pays d'Europe orientale, la situation était plus complexe, puisqu'il n'y avait pas de magistrature immédiatement de rechange. Donc il y a eu, et il fallait qu'il y ait une certaine forme de remplacement des magistrats les plus compromis avec le pouvoir politique, ceux qui avaient été dans la confusion de leurs fonctions. Nous avons été là aussi sollicités. De stages de magistrats venus des pays d'Europe orientale dans les différents tribunaux d'Europe de l'Ouest. Et c'est ainsi que nous avons pu accueillir, grâce au soutien vraiment financier du Conseil de l'Europe, une vingtaine, trentaine de magistrats pour leur présenter comment fonctionnait la justice de l'autre côté de ce qui avait été le mur. Mais je dois dire que nos moyens étaient des moyens artisanaux. Mais pendant que nous accueillons une vingtaine de magistrats des pays de l'Est, l'Association des avocats américains envoyait des avions dans l'ensemble des capitales européennes de l'Est pour emmener des centaines d'avocats faire leur classe aux États-Unis pour découvrir, évidemment, ce qui était le droit dominant de l'époque, et surtout, non pas les droits de l'homme, mais le droit du business. Ça a été les premières tensions, je crois, de ce que l'Europe aussi allait devenir et laisser présager comme évolution. Je dois dire aussi que ce moment, deuxième moment qui est marquant de ma présidence, ça a été rappelé, le conseil d'administration de Palerme en janvier 1993. Alors, les années 93, c'est les années de lutte contre la mafia en Italie et précisément à Palerme. Alors, nous avions pris la décision d'organiser un conseil d'administration dans cette ville symbolique de Palerme. J'étais président, donc responsable de la sécurité de mes collègues et les collègues allemands m'appellent quelques jours, c'est une petite anecdote comme ça que je vous raconte pour dire ce qu'était l'esprit à l'époque de Medel. Et quelques jours avant, des collègues allemands m'appellent en disant « François, qu'as-tu prévu pour notre sécurité ?» Je n'avais évidemment rien prévu. Donc j'appelle tout de suite les collègues italiens qui me disent « Ouh, c'est une vraie question, on va discuter avec les amis de Palerme ». Les Italiens me rappellent, ils me disent « Écoute, pas de problème, votre avion va se poser sur l'aéroport de Palerme, une automitrailleuse vous accueillera sur la piste et vous amènera au tribunal ». Je rappelle mes amis allemands qui me disent « Sehr gut ». Je suis content, ce n'était pas Christophe, Christophe il n'est pas dans ces préoccupations-là. Et puis, quelque temps après, les collègues italiens me rappellent en me disant « C'est peut-être beaucoup l'automitrailleuse ». On mettra des carabinieri et puis ils vous escorteront vers le tribunal de Palerme. Bon, j'ai rappelé les amis allemands qui m'ont dit « ça va, ça va ». Et la veille du conseil d'administration à Palerme, les Italiens m'appellent « Hey, Francesco !» me dit « on a discuté ». Et finalement, on a pris la décision. Ça se voit pas sur vos visages que vous êtes des juges. Alors, vous descendez de l'avion, vous prenez l'autobus comme tous les touristes, et vous allez au tribunal de Palerme, il y a un arrêt de bus devant, et voilà. Mais alors, ce conseil d'administration extraordinaire de Palerme a coïncidé avec deux coïncidences, deux circonstances absolument extraordinaires. La première, c'est l'arrestation, le jour même, de Toto Rigna. Toto Rigna, c'était le boss de la mafia. C'était lui qui avait commandité l'assassinat de Falcone, de son épouse et de Borsellino. C'était lui. Il était arrêté ce jour-là où nous étions à Palerme. Et l'autre coïncidence extraordinaire, c'était que notre camarade de Magistratura Democratica, Caselli, était nommé procureur de la République de Palerme. Alors les Italiens m'ont dit « François, faut que tu fasses un discours ». Et je crois que je n'ai jamais ressenti dans ma bouche autant d'émotions que ce jour-là. Parler devant les veuves de tant de nos collègues. Je me souviens de la veuve de Borsellino. Je me souviens de... J'ai une affection particulière pour Borsellino parce que c'est un fou de vélo comme moi. À son musée, d'ailleurs, il y a son vélo qui est exposé. Et ce moment-là aussi, pour nous, était un moment de réflexion importante. Parce que c'était tout le débat entre le juge naturel et la spécialisation, l'ultra-spécialisation des pôles anti-mafia, anti-narcotrafic, anti-drogue, anti-ce que vous voulez. Et nous étions quand même plutôt partisans, grâce aux réflexions en particulier de nos amis allemands, du juge naturel. Et on analysait avec un certain scepticisme critique toutes ces pôles anti-mafia spécialisés et centralisés, généralement dans les capitales, c'est-à-dire au plus près du pouvoir politique. C'était ça, à l'époque, les discussions que nous avions, c'était peut-être des préoccupations de riches. Parce qu'effectivement, tout le monde l'a rappelé, l'époque n'était pas la même, il était à l'euphorie démocratique, même si je me souviens qu'avec Mimmo Gallo, nous étions allés en ex-Yougoslavie, en Croatie, rencontrer des juges croates pendant la guerre avec les stigmates que l'on voyait encore sur des villes comme Rijeka, qui avaient été l'objet de combats. Alors, voilà, c'est évidemment voilà ce que fut Medel. Je dirais que Medel, pour conclure, fut en quelque sorte l'Erasmus de la magistrature. L'Erasmus avec la richesse de ses échanges, avec les aventures amicales et même des aventures amoureuses. Il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être parmi vous ou dans la magistrature, des bébés Medel. Et franchement, je crois que c'est un peu sur cette note que je voulais aussi terminer, il faut garder la fraternité qui était celle des pères fondateurs, et puis vraiment ce qui fait plaisir, c'est la diversité, c'est le développement de l'association, et puis c'est son organisation qui a considérablement progressé. Et ça, merci à tous mes successeurs d'avoir accompli ce mouvement. Alors, très bon anniversaire des 40 ans de MEDEL.
Merci vraiment François. L'Erasmus, c'est une belle image vraiment, et parce que la fraternité vraiment c'est une des valeurs de notre association, et nous croyons en ces valeurs. I would like to give the floor now to Christoph Strecker. Germany, Berlin have been recalled many times. You were there, you were a member of MEDEL in the 80s, in the 90s. You were active, and I would like to hear your voice at this point.
Thank you very much. When I got the invitation, there was... we were asked to limit ourselves on a certain period. So I will bring 3 points from the period from 1985 to 2005. The first, our background, experience with totalitarian systems. Second point, big size or identity. Third, the logo of MEDEL. First, our background, experience with totalitarian systems. Now, I repeat things that have already been said. But anyway, in the period of fascism in Europe, the judiciary generally failed miserably, with only a few exceptions. Instead of defending the rule of law and the civil rights, the judiciary delivered legitimacy to tyranny. After the collapse of the fascist systems, a great part of the judges remained in their functions. The judges' organization were mainly interested in the defense of good working conditions and privileges. They were not interested in discussions about the past. Only in the younger generation of judges, there were groups that discussed history. Their conclusion was that the defense of democracy requires democratic judiciary. These groups got in touch with each other at the ending 70s and beginning 80s of the last century, and created a European organization which since then unites them. On June 15th, 1985, we met in Strasbourg in the building of the European Parliament, or was it the Conseil d'Europe, for the foundation of what we named Marche européenne pour la démocratie et la liberté. The experience that judiciary had not resisted to political power in totalitarian systems is the base of our activities, and more extra than ever. We see judicial independence not as a privilege, but as an indispensable base of professional commitment for the protection of the rule of law and human rights. My second point, big size or identity. Now I make reference directly to what François Guichard said. After the breakdown of the wall in Berlin, a friend said happily, "Now the comrades from German Democratic Republic can come and join us." He ignored completely that these judges and prosecutors had been on the side of the oppressors, legitimating the oppression of civil rights for which we are fighting. Now we had two conflicting goals which we discussed in the administration board. Some of us wanted to become powerful by the number of members. Others emphasized the importance of our identity. For them, our relevance is not based on the number of members, but on the persuasiveness of our arguments and the sincerity with which we act according to our values. There were colleagues from Croatia who applied for membership in the Croatian Judges, of the Croatian Judges Association, which represented the majority of Croatian judges. In the board of MEDEL, we had a controversial discussion. Some of us argued that such an association contained not only democrats, but also those who had supported the authoritarian system, and that we should not accept them as members. The other opinion inside our board was that for our political importance, it would be helpful to have many members. In our voting, big size prevailed over identity. However, they stayed away after some time. We lost the contact. We met judges and prosecutors in other countries. These contacts began mainly on the basis of private initiatives. It was a procedure of trial and error. We could not know beforehand who the judges were whom we met. Several seemingly positive contacts ended with a disappointment. But we also met persons who turned out to be fighters for democracy and rule of law. In Warsaw, we found Teresa Roma. In Prague, we found Antonín Mokry. They and their friends were our first trustworthy contact persons in their countries. After the foundation of the Polish Justitia, Teresa was vice president of MEDEL for several years. In Serbia, after the fall of Milosevic, we contacted a Serbian civil rights organization to find out if there were judges in the judiciary in whom they trusted. So we came in contact with Ramila Dragicevic and Omer Hacimirovic. Serbian Judges Association has become a powerful element of MEDEL. Now we see with satisfaction and happiness that MEDEL has grown and did not sacrifice identity for big size. My third point, the logo of MEDEL. Did you ever look with attention at the logo of MEDEL? It was created in the 90s of last century by a Belgian designer whose name I don't remember. His idea of two birds flying over a book is a wonderful symbolic combination of commitment and freedom. The book represents the written text as a base of the rule of law. The birds represent the freedom of our thought. They represent liberty, as mentioned in our name. Magistrat européen pour la démocratie et les libertés. Merci.
Is working, yes. I will now give the floor to Orlando Afonso. You mentioned Teresa from Justitia. She was the vice president of Orlando while he was president of MEDEL from 1996 to 2001, if I'm not wrong. Patrice de Charette was also a member of the board of Orlando and he's also here. And let me just, on a personal note, 1 year after Orlando left the presidency of MEDEL, I was applying to the Judicial Academy in Portugal as a candidate to become a judge. And it was the first time I met Orlando. He obviously does not remember, but trust me that I do. Because we had written and oral exams. One of the oral exams was the exam on ethics and deontology. And the person who made my oral exam of ethics and deontology was Orlando when I entered the Judicial Academy. So it's
évidemment nous avons commencé notre mandat dans une époque qui a commencé avec François Guichard. Une nouvelle réalité se posait en Europe. Et MEDEL, à cette époque-là, il faudrait qu'elle se tourne à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est l'extérieur à cette époque-là? Non plus l'Occident seulement, mais la nouvelle réalité qui était les pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. François a dit déjà très bien quelle est la lutte que MEDEL a trouvée à cette époque-là, avec la coopération très importante du Conseil de l'Europe, À cette époque-là, il y avait une dame qui aujourd'hui, je pense, qui est en pension déjà, qui travaillait ici, qui était elle faisait partie du Conseil de l'Europe, qui était Danuta Wisniewska-Kazals, qui était une dame polonaise, et qui elle s'intéressait beaucoup par les positions de Medel. Et elle a soutenu très fortement Medel, et toujours que nous irons à l'extérieur, comme j'ai dit, Danuta, et que le Conseil de l'Europe y allait, Danuta nous soutenait et demandait à Medel, et moi j'étais le président, d'y aller et de donner à les collègues qui ont sorti de la dictature de gauche de cette époque-là, de donner des nouvelles visions sur la justice. Comme François a dit, il y avait l'autre chose. The American Bar Association. And the American Bar Association, elle voulait transformer l'Europe de l'Est dans un système américanisé. Excusez-moi le mot. Mais pour elle et pour les collègues, les juges devraient être purs, pas engagés avec la société. Les juges, c'était quelque chose à part, pas engagés. C'était ça que l'AEM disait aussi. Ils devraient être purs. Et je disais, purs, purs simplement l'eau. L'eau et l'eau de laboratoire. Parce que l'autre n'est pas pure. Elle n'a pas de goût, elle n'a pas de couleur, elle est transparente. Qu'est-ce que c'est, ça? Pure? Non. Le juge doit être quelqu'un avec un compromis avec la société. Et il faut ne confondre pas ce compromis social des juges avec appartenir à un parti. Ce sont des choses complètement différentes. Ça, c'est la grande lutte que nous avons à cette époque-là dans les pays de l'Est. Évidemment que nous défendons une indépendance engagée, une indépendance que nous avons déjà citée. Cette phrase est très intéressante du privilège. Ne pas être en privilège. Cette phrase a été dite en 1833. Il y a un document de cette époque-là pour le premier président de la Cour suprême portugaise dans une lettre adressée à la reine qui voulait finir avec l'indépendance des juges. Il a écrit, le président et tous les conseillers à cette époque, en 1833, et a dit à la reine, « Madame, l'indépendance n'est pas un privilège de la classe des juges. C'est une garantie de la société. Sans cette garantie, le juge ne peut pas accomplir les tâches que la Constitution le donne. » Ça, c'est en 1833. Et c'est ce type d'indépendance, d'une indépendance qui n'est pas un privilège, d'une indépendance qui n'est pas en donné acquis, n'est pas en donné acquis. Aujourd'hui, se pose aux collègues ici de Medel et d'autres juges des problèmes différents, mais des problèmes d'indépendance. Pas les problèmes politiques seulement, des problèmes d'organisation, de technique qui commencent a influencé aussi l'indépendance. C'est ça. Ce compromis avec la société, il se compromis des juges de être les premiers à dire qu'est-ce qui était mal à la magistrature. Par exemple, nous avons fait un colloque très important à Paris, au Sénat, à Paris, l'inefficacité de la justice civile. Un colloque qui était, à cette époque-là, le ministre de la Justice, Madame Guigou. Je n'irai pas compter ces histoires, mais c'est un colloque très important. Nous avons aussi, une des premières choses, le manifeste des procureurs que nous avons fait à Bruxelles, de lutte pour l'indépendance du ministère public. Et d'autres choses, je ne veux pas vous perdre beaucoup de temps, mais par exemple, cette déclaration de Mevel sur l'indépendance des juges, nous avons profité ici au Conseil de l'Europe, et le Conseil de l'Europe a fait le statut des juges européens dans la base de la déclaration que Medel avait faite auparavant. Un statut très difficile, surtout en question de langage. C'est drôle parce que quand on parle en français, on parle en anglais, ce n'est pas simplement une question de la langue. C'est une question des choses qui sont au-delà de la langue, parce que chaque langue nous va transmettre les opinions, le savoir-vivre ou non de chaque pays. Et ça a posé des questions très intéressantes dans le statut des juges européens qui est ici. Nous avons fini le statut. Nous avons donné le statut à un collègue français pour mettre ce statut plus littéraire, plus... Et nous avons donné un collègue anglais. Et j'ai parlé avec des collègues portugais aujourd'hui. Nous avons donné ça à un collègue anglais. Et le collègue anglais dit, I don't know in what English you want to put the statue. Henry, you don't know. In English, no, not at all. Of course, if I write the statue in the English everybody talks, my colleagues in England say to me, what are you doing in Europe? You don't speak English no more. But if I put the statue in the English of Her Majesty, you don't understand. And he gives us an example. Conseil supérieur de la magistrature. Très facile pour nous, en Europe continentale. En français, Conseil supérieur de la magistrature. En italien, Consiglio superiore della magistratura. Portugais, la même chose. Bon. In English. Superior. No, no, not at all. Superior, no. High council, of course, high council. High council of what? Of magistrates? No, magistrates, no, because magistrates It's something very different of the judges. I counsel of judges, oh, it's not good. The correct, it was High Council of the Bench. Of the bench. Bon, ça, you know, it's very difficult, but this translate some opinions, some ideas of each country. Bon, merci pour les bons anniversaires à Medel. Le premier anniversaire que j'ai participé à Medel, c'est 10 ans, qui s'est fait dans le Parlement européen. Et à cette époque-là, Heinz Stötzel, il se sentit mal. Et à moi, il y a Hélène Immerglick, dit, vous allez continuer. Et nous, continuer ou quoi? Comment? Cet anniversaire de Medel. Merci à tous.
Thank you, Orlando. We are a bit late of time, but we still have a few speakers very interesting. One of them is Dragana Boljevic. We recalled how Medel was active in contacting and working with other countries after the fall of the Berlin Wall. Our contacts with the Serbian Association of Judges and Prosecutors were particularly relevant. Dragan has been Secretary General of Medel for even time, and I'm happy to give you the floor, Dragan.
Thanks, Walter. I will be brief because I didn't write anything, and because I have a sense that I'm more exhibit here than a speaker, because I'm living witness, let's say, of the kind of two things connected to Medel. One is enlargement of Medel, and the other is success of Medel. Medel was not the only one who helped us succeed, but Medel was one of the most important ones. So we contacted firstly Medel in 2003 when Miguel went to Belgrade to some conference. I think you remember it, on the evaluation of the work of judges, and then we, let's say, observed the work of Medel. We also cooperated with the American Bar Association, yes, and we thanked them in 2007 because we realized that their legal system cannot be copied in continental country like Serbia is. So in 2007, we made we organized one conference, a very big one, in Belgrade. More than 100 guests, foreign guests, were present. And then we presented that like the prejudice were in those times in Europe, and gain trust and build mutual trust with our colleagues from Europe. In 2008, we became members of Medel. In that time, also, we became members of International Association of Judges. And I am not just saying that because of Serbian Association, but because Medel afterwards got to cooperate also with the International Association of Judges, which was never dreamt. No one dreamt about that previously. What to say? In 2010, when we suffered the most unexpected and anti-civilization act of dismissal of all, reappointment, let's say, of all judges and prosecutors, we got in touch with Medel, we had their support, and I have to mention one person who is not who phoned me 10 days after what happened, and it was Tamara Trotman. And she said, I heard that somebody is something is happening in Serbia. Can I help? So the first persons who came to Serbia in those days were Vito Monetti, in that time president of Medel. I can thank you enough to him. And I am sorry not to have him today. And Gualtiero, who was also a member of one international delegation of the European Commission. And since then, many actions of Judges Association of Serbia and Medel were organized. And they were so original, proactive, I would say clever, that led us to the success in what happened in Serbia and led us to success in a legal way. Yes, we put a little bit what was happening. We put some influence of the European Commission. Even the European Commission wanted to put some things under the carpet, not wanting to be responsible for everything, what was happening. We had some luck because European Union was a bit different than nowadays. I doubt that we would succeed nowadays. But with our actions and with legal remedies that we put forward, we succeeded. And I cannot finish this and not mention the audit which was undertaken in Serbia in 2013. It was the audit of which was undertaken by two independent experts, and Simon Gaborio and Hans Ernst Botcher, who Simon is with us. Hi, Simon. And Hans Ernst isn't, unfortunately. And which previously was created, the method of audit by Vito and Antonio Cluny. It was really impressive what they did in several months. Firstly, read our legal time frame, let's say, constitution and all our laws. Then they came to Serbia, and in 6 working days, they spoke with more than 100 counterparts in Serbia. And after several months, they did, a review, which had such an influence, not only in Serbia, but in European Commission, that European Commission afterwards had taken that audit report and had presented every time they spoke about Serbia and about conditions which have to be fulfilled. I think it is the purest success of Medel, and we cannot forget it. We cannot forget how important it was. All of us, not only me, but I would say also our founder's father, let's say, and all of us which are middle persons of Medel and the younger of us, we established and cherished and shaped Medel, but also Medel shaped us, our personalities, our personalities, but also us as professions, as judges, which are different, which are enriched by the values who are the leading values of Medel. And nowadays, as we heard what Mimo Galo said, in those shady days, we are living really in shady days. We don't know what will happen in future years, we should be, like Medellians are, we should be open-minded, without prejudice, brave to speak up, even if we are suspecting that someone could or should and will cancel us. And we should speak our mind up. We should not be afraid. And really, really, we should be without prejudice. That is something which I think it is most important mission for us in the future. Thank you.
Bien, maintenant, c'est le, je passe la parole à Simone Gaborio. Elle est connue de nous tous. Je crois qu'elle a traversé plusieurs bureaux de MEDEL. Moi, je veux dire, pendant que j'étais président, je recevais, je dirais, entre 10 et 15 emails par jour de Simone qui m'alertait de tout ce qui se passait. Et donc, je passe la parole à Simone. Je ne sais pas si.
Je peux prendre la parole?
Oui, parfait.
Merci Galtiero. Oui, je continue encore à envoyer des mails au bureau. Et effectivement, bon, je ne suis plus rien dans MEDEL, dans les institutions, mais je crois que je constitue une mémoire. J'espère que j'aurai plus de voix que ce matin. Je voulais parler du temps des crises. Alors, ce temps des crises, bon, je pense qu'hélas, il va se perpétuer. Et parler de quelques crises où j'ai pu contribuer à apporter des réponses, je ne dis pas forcément des solutions. Avant de le dire, je voudrais souligner, en répondant à ce que Jean-Paul a dit, Jean-Paul Jean, il y a une trace de la déclaration de Bordeaux, et je ne manquerai pas de l'envoyer au bureau actuel de MEDEL pour que ce soit mis dans le site, sur le site. Alors revenons au temps des crises. Alors je voudrais, parlant après Dragana, que je me permets de saluer avec une émotion particulière, tant on a fait de chemin ensemble, parler tout d'abord de la crise en Serbie, que Hans Ernst et moi avons connu. Alors j'espère que je ne dirai pas des choses contraires à ce qu'elle vient d'évoquer, ne comprenant toujours pas l'anglais, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Alors, pour mémoire, en décembre 2009, et puis dans les années qui ont suivi, il y a eu un mouvement de révocation d'un tiers à peu près de la magistrature, magistrats du siège et magistrats du parquet en Serbie, un millier. Ça avait ému les autorités, européennes qui avaient demandé à ce que la procédure qui paraissait être radicale et non respectueuse des droits fondamentaux des magistrats qui étaient révoqués, au point que les autorités européennes avaient demandé une révision de cette procédure. Mais ça ne paraissait pas satisfaisant, d'après les échos que nous avions, et notamment transmis par Dragana et Omer. Et donc, Hans-Ernst et moi, au printemps 2012, nous avons été mandatés pour effectuer un audit. Car à cette époque, MEDEL faisait des successions d'audits. Et nous avons, pendant une semaine, au mois d'avril 2012, séjourné à Belgrade, entendu énormément de personnes. Et nous avons constaté qu'il y avait des violations des droits fondamentaux des magistrats qui avaient été révoqués et que la procédure de révision était sans efficacité pour apporter des droits fondamentaux de ces juges. Alors, qu'est-ce que c'était que cette réforme? Dans un premier temps, c'était présenté, au moins aux autorités européennes, comme une réforme pour assurer l'intégrité déontologique des magistrats pour qu'il n'y ait plus, entre guillemets, de corruption. Et il faut rappeler que le contexte européen était le suivant. En mars 2012, la Serbie est devenue candidate officielle pour l'Union européenne et avoir une magistrature indépendante et intègre était une des conditions. Donc, c'était présenté comme ça. Mais de fait, ça a été un moyen de que certaines prennent leur revanche par rapport aux magistrats qui me déplaisaient ou autres. Donc, avec Ansert, nous avons bien dit que ce n'était pas une bonne réforme, que ça ne garantissait pas du tout une justice future indépendante. Et nous avons fait un rapport très détaillé, nous l'avons rendu public lors d'une conférence à Belgrade. Et pourquoi j'ai l'impression que malgré tout, on a servi à quelque chose, parce qu'on faisait à la fois des critiques et quelques propositions, c'est parce qu'à la même époque, il y a eu des élections en Serbie, non seulement au Parlement, mais des élections présidentielles. Et Boris Tadić, excusez-moi, un camarade serbe pour ma prononciation, était candidat à son remplacement. Hein. Il en était à deux mandats, il voulait faire un troisième mandat de président. Et il se trouve que il avait une bonne étiquette en Europe, c'était lui l'Européen, mais il a été battu aux élections présidentielles. Et par ailleurs, bon, il y a eu un changement de gouvernement, etc. Et nous, de notre côté, on avait fait des analyses juridiques très pointues pour dénoncer le mécanisme de révocation des juges. Finalement, contre toute attente, alors que la Cour constitutionnelle ne nous paraissait pas de nature à remettre cette réforme sur le droit chemin, ben la Cour constitutionnelle, en juillet 2012, a annulé toutes les révocations. Et nous nous sommes rendus compte que dans les motivations de la décision, ben on avait repris certaines de nos analyses. Alors, on n'est pas naïf, hein, Hans, moi, on n'est pas naïf, on a bien compris qu'il y avait aussi un contexte politique, mais on s'est senti quand même avoir joué un rôle, car si la Cour constitutionnelle a pris ses décisions d'annulation, elle avait peut-être, je ne sais quelle intention profonde, on ne sonde jamais les cœurs des juges, mais il avait trouvé le chemin du droit, il me semble que nous lui avions ouvert. Donc voilà ce que je voulais dire, ça ne voulait pas, en faisant revenir au sein du corps de la magistrature tous les magistrats révoqués, que la magistrature serbe ne devait pas être réformée, je sais qu'après il y a eu des évolutions, etc. Mais de temps en temps, dans les audits, dans les expertises, on se sent utile. Deuxième approche du temps des crises, qui est les crises économiques et sociales. Tout d'abord, je voulais rappeler que en 2010, hein, quand on a fait un des premiers anniversaires de Medel, on avait mis comme thème notamment l'état social. Et l'état social était au cœur des préoccupations, puisqu'il y avait eu la crise économique de 2008 qui avait encore continué à faire des dégâts. Et je me contenterai, parce que j'ai fait un long texte sur l'état social, de citer quelqu'un que nous connaissons bien pour certains, qui est notamment Galtiero, Alain Supio, qui disait « La xénophobie sert d'exutoire habituel et tragique à l'insécurité et à la paupérisation dans lesquelles les masses humaines sont précipitées. Nous connaissons les armes juridiques pour combattre cette xénophobie avec, hélas, des succès variables, forgeons également des armes pour, en défendant l'État social, combattre les mécanismes qui conduisent aux exclusions et aux phénomènes de bouc émissaire. Donc, voilà le contexte de l'État social. Et quelques années après, donc à Athènes, aux 30 ans de Médal, il y avait une crise financière très grave en Grèce, certains doivent s'en souvenir. Et pour célébrer ces 30 ans, on avait mis comme thème de cette commémoration solidarité, dignité, justice. Et on se battait pour une Europe de la solidarité. Et je passe sur toutes les déclarations, mais je voudrais en dire juste quelques-unes. Les politiques européennes doivent contribuer activement à l'instauration de l'égalité et de la justice sociale au profit de tous ceux qui vivent et travaillent en Europe, y compris les migrants qui aspirent à y construire des conditions de vie meilleures et un avenir pacifique. L'Europe ne peut pas continuer à assister passivement à la tragédie qui se déroule sur ses rivages. La crise économique ne saurait justifier une remise en question des acquis sociaux. Les politiques européennes doivent contribuer activement à l'instauration de l'égalité et de la justice sociale au profit de tous ceux qui vivent et travaillent en Europe, y compris les migrants qui aspirent à y construire des conditions de vie meilleures et un avenir pacifique. L'Europe ne peut pas continuer à assister passivement à la tragédie qui se déroule sur ses rivages. Donc, voilà ce que je répète à plusieurs reprises sur le thème de la migration qui était très présent dans la création de Médine. Et pour certains qui s'en souviennent, en 2015, il y a eu un référendum en Grèce, il y a eu des problèmes terribles sur la crise financière entre l'Europe et la Grèce. Et je me sens aussi pour quelque chose, parce que c'est moi qui avais lancé le premier texte. Médel est allé jusqu'au bout de sa déclaration sur l'Europe de la solidarité et des dignités et a pris un communiqué face à cette crise qui mettait en cause la dignité même du peuple grec. Et nous avons finalement pris un communiqué, Médel, quand je dis nous, c'est Médel, et que je voudrais juste citer parce qu'il est beaucoup plus long. Médel attire l'attention des gouvernants européens sur la nécessité de prendre des mesures concrètes exprimant la solidarité européenne envers le peuple grec et le respect dû tant à sa dignité qu'à sa souveraineté. Demande aux femmes et aux hommes politiques responsables de l'avenir de leur peuple et du peuple européen d'accorder une attention profonde à la cohésion européenne. C'est ainsi qu'ils doivent renoncer aux discours simplistes et manichéens susceptibles de nourrir des réactions haineuses entre les peuples et servant les mouvements extrémistes et populistes anti-européens. Il me semble que tout ça, c'est toujours, hélas, d'actualité. Le temps des crises n'est pas terminé, mais je crois que Médel a acquis un savoir-faire avec des multiples façons d'agir, les déclarations, les audits, etc., qui lui permettra d'être toujours présent face à ce qui fait le cœur, l'âme de Médel. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Simone. We have a slight change of plans because we are running a bit late on our schedule. We had written messages from Hans-Ernst Böttcher and from Antonio Cluny. Iria was telling me something. But as we have to do the lunch break, The messages will be on our website, so they will be made available to all of you. And asking the permission to the speakers of the following panel, maybe we would have the lunch break now and have the following panel after the lunch break, if it's not a problem.